À voix nue, Camille Jusa, cette semaine avec...
Renzo Piano, architecte.
Épisode 1, soudain, Beaubourg. Renzo Piano, bonsoir. Vous êtes probablement l'architecte le plus connu des Français. En tout cas, tous connaissent votre bâtiment le plus célèbre, le Centre Pompidou, cet énorme mécano urbain, tout en conduite, en tuyaux, que vous avez livré avec votre associé Richard Rogers au cœur de Paris en 1977. Vous avez alors changé le paysage parisien, bien sûr, mais aussi le paysage culturel mondial, avec ce musée qui ressemblait plus à une usine qu'au Louvre et qui allait devenir une référence pour tous les musées du monde. Vous avez aussi, avec Beaubourg, hein, parce que c'est comme ça qu'on continue de l'appeler, changé le cours de votre vie, puisque vous vous êtes fait une place sur la scène architecturale internationale, dans ce moment très particulier des années 80 et 90, où une poignée d'architectes sont devenus de véritables stars et ont construit partout sur la planète des bâtiments de plus en plus spectaculaires ou en tout cas reconnaissables. Alors depuis 45 ans, vous baladez votre longue silhouette dans cette grande compétition avec une architecture qui emprunte à l'imaginaire technique, industriel, une architecture qui est louée pour sa légèreté. Et on vous a vu construire un aéroport à Osaka, un immeuble de verre à Tokyo, un stade, une église, des auditoriums et beaucoup d'autres choses en Italie, votre pays natal, un centre culturel à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Vous avez réinventé un morceau du No Man's Land après la chute du mur à Berlin. Vous avez fait surgir des universités entières, une tour à Manhattan, pas moins de 33 musées dans le monde, 33. Mais je suis obligée de m'arrêter ici parce qu'il est impossible de faire la liste des 110 projets terminés à ce jour par le Renzo Piano Building Workshop. C'est le nom de votre agence. Alors depuis 1977, votre barbe noire qu'on vous voyait au moment de l'inauguration de Beaubourg a blanchi. Et on avait envie de vous entendre sur cette très longue carrière, sur votre manière de travailler, d'envisager le métier d'architecte qui est à la croisée de l'art, de l'artisanat, de la science, de l'industrie, avec des enjeux politiques, esthétiques, financiers, sociaux, écologiques. On avait envie de vous entendre sur ce que vous avez voulu nous dire tout au long de ces années avec tous ces bâtiments et sur ce que, selon vous, l'architecture doit être aujourd'hui dans ce moment inédit où les ressources planétaires diminuent. Alors nous sommes ici dans votre building workshop, votre atelier de construction dans le texte, votre agence parisienne, il y en a une autre à Gênes. Nous sommes dans le Marais au milieu de dizaines de bureaux, de maquettes, de dessins, de coupes épinglées au mur, dans une atmosphère très studieuse, et surtout à deux pas de Beaubourg, dont on aperçoit quand on sort d'ici la façade arrière avec tous ces tuyaux bleus, verts, ces armoires jaunes, ces ascenseurs rouges. Je pense que vous passez quatre fois par jour devant Beaubourg. Quel est votre rapport avec cette espèce d'énorme valise de métal que vous avez déposée comme ça au milieu de Paris, de ce vieux Paris médiéval?
Oui, c'est drôle, parce que d'une certaine façon, je suis une sorte de Quasimodo de Beaubourg, moi. Avec mon Esmeralda, bien sûr. Mais oui, c'est vrai, je le vois quatre fois par jour, au moins, puisque j'habite pas loin, et place des Vosges. Chaque jour, j'ai pas de voiture, moi. Je marche toujours, toujours à pied, aller-retour. Et comme ça, et je m'arrête quand même chaque jour, un petit instant. Parce que ça m'étonne quand même qu'on nous a laissé faire une chose comme ça, franchement. Ça m'étonne pas tellement qu'on l'a faite. On était un petit peu fous, on était des jeunes un petit peu fous, mais quand même, on nous a laissé faire ça. Et je crois que j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, parce que d'abord, c'était seulement 2 ans après le mai 68. Et c'était 71. Et il y avait une idée derrière, assez révolutionnaire. C'était l'idée de la maison de la culture. Vous voyez? Et ça, c'était pas du tout nous. Ni moi, ni Richard Rogers. C'était plutôt Marrero qui avait ressorti cette idée qui existait déjà dans ce pays depuis longtemps. Mais il s'est dit, mais pourquoi pas faire une des maisons de la culture à Paris? La plus grande. Maison Culture, c'est un lieu dans lequel les différentes formes culturelles, et la lecture, le savoir, la musique, l'art, le cinéma, la photographie, tout vient ensemble. Et c'est une idée assez belle, cette idée. Il y avait déjà ça. Et il y avait cette idée d'un concours tellement fou que, il faut dire, nous, on était sûrement légèrement fous, mais il y avait une légère folie aussi dans ceux qui ont organisé ça, puisqu'ils ont fait un concours ouvert, un jury qui était incontournable, avec Jean Prouvé, avec tous les grands architectes du monde. Incontournable, ça veut dire très simplement que s'ils décidaient quelque chose, ça aurait été très difficile de dire non.
Vous avez hésité à concourir. Vous avez hésité avec Richard Rogers.
Oui, on a hésité, puisque bien sûr, on était un petit peu révolutionnaire. On habitait à Londres à cette époque. Avec Richard, on s'est dit, mais c'est un projet d'État, un grand projet d'État. C'est un monstre culturel, blablabla. Et finalement, on s'est dit, d'ailleurs, on l'a fait, puisque les ingénieurs ARP nous ont proposé ça. Même un petit peu d'argent. On n'avait pas beaucoup de travail, il faut dire. Et alors, du coup, même un petit peu d'argent, quelques milliers de sterling, c'était pas trop mal. Mais on l'a fait, puisque... D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on a gagné, puisque on n'a pas essayé de gagner. Tout simplement, on avait à dire quelque chose qui n'était pas trop bête, quand même. Et c'est-à-dire que la culture avait besoin d'un lieu plus ouvert, moins... qui fasse moins peur, enfin, moins intimidant. Et on n'était pas des gens non cultivés, nous. On était cultivés à notre façon. On allait tous les vendredis soirs, on allait toujours dans les proms, qui étaient les concerts dans les rues, à Londres, les enfants sur les épaules. Ça, on avait une autre façon de concevoir la culture. Alors, on était poussés par cette idée. Et on a fait ça d'une façon, si on réfléchit bien, complètement folle, puisque, d'abord, au lieu d'obéir au programme, on a pris seulement la moitié du site, la moitié. Et on a fait le bâtiment deux fois plus haut. Or, c'était doublement méchant, parce que deux fois plus haut, c'était quand même le marais. Mais on ne l'a pas fait pour manque de respect. Mais puisqu'on s'est dit, mais un bâtiment comme ça, il faut quand même qu'il prenne le courage d'être un monument. Pas un monument rhétorique, mais c'est quand même quelque chose d'important. Il faut qu'il... C'est pas la taille. Toutes les villes ont toujours eu des bâtiments hors échelle. Et en plus, on avait pensé une chose qui avait été plutôt pas bête. C'est que une place essentielle. Si tu construis une place, tu construis un lieu génial dans une ville. Une place est faite pour que les gens viennent. Puisqu'une place, c'est là où les gens se rencontrent. Les différences disparaissent.
Ça veut dire que la Piazza de Beaubourg, elle est prévue tout de suite avec le projet, elle est même génératrice du projet, elle fait partie du projet.
Oui, je crois que c'était venu pratiquement tout de suite. Vous savez, un concours comme ça, on ne le fait pas pendant des mois, c'était quelques semaines. Et c'était tout de suite l'idée que c'était plutôt une usine, pourquoi pas. Moi, je crois aussi que c'était un paquebot. J'ai toujours adoré ça. Vous savez, on a toujours dans la tête des choses qui vous tournent dans la tête. Moi, je dois à Gênes, à ma ville, le port, des souvenirs comme ça. Quoi. On les a dans la tête. On ne sait pas, mais on les a dans la tête. Alors, cette idée d'amener un vaisseau et le faire atterrir à Paris, dans le milieu de la ville, c'était quelque chose d'inouï, bien sûr, mais ce n'était pas aussi bête que ça, parce que c'était justement un bâtiment qui était fait pour que la curiosité... Vous voyez, la curiosité, c'est le début d'une attitude culturelle. C'est le début. Pour quelqu'un qui n'est pas cultivé, la curiosité, aller dans un lieu dans lequel tu cherches un bouquin et tu vois qu'il y a une exposition, ou il y a un film, ou il y a quelque chose qui se passe. Et ça, cette idée-là, c'était quand même primordial. Et du coup, voilà, c'est ça qui nous a guidés. Et c'était tout de suite au début. Au début, tout de suite, on a pensé à ça. Et une place en plus, moi je suis italien. Et Richard était à moitié italien, puisqu'il était né à Florence. Et un italien a toujours dans la tête une place. pas seulement les Italiens, les Français aussi d'ailleurs. Je suis moitié Français maintenant, mais une place, c'est un lieu génial. Et alors là, comment est-ce que tu fais ça? Eh ben, c'est très simple. Tu atterris avec un paquebot, tu le fais plus haut, plus grand, tu mets tout ce qu'il faut mettre dedans, mais tu laisses à la ville une place.
Comment ce centre d'art, ce programme où il y avait énormément de choses, une bibliothèque, un centre de recherche acoustique et musique, un musée d'art moderne, un restaurant, des salles de cinéma, etc., etc. Pourquoi ça s'incarne dans ce bâtiment qui a 6 niveaux, absolument dégagés, on peut mettre ce qu'on veut partout? Comment vous avez cette idée d'une architecture au fond qui peut recevoir absolument ce qu'on veut? Pourquoi c'était important ça?
Mais là aussi c'est je m'en fous, mais voyez, construire, bâtir pour un architecte. Il était un petit peu utopiste, mais quand même pas si mal. Et c'est construire quelque chose qui abrite des fonctions. Vous construisez un abri. Quelquefois, c'est un abri très simple pour quelqu'un, pour une famille, pour une communauté. Quand vous faites une chose comme ça, c'est un abri pour quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à définir. La culture. C'est quoi la culture? Comment est-ce que tu peux définir? On a toujours pensé que c'était une bonne idée, chaque quart de siècle, d'arrêter un petit moment pour réfléchir et modifier le bâtiment. Ce qui se passe d'ailleurs, hein? Ce qui s'est passé déjà, ce qui se passe. Alors l'idée de construire un bâtiment qui est une sorte d'infrastructure, et c'est un bâtiment qui est tellement flexible. Et du coup, la flexibilité n'est pas une valeur technique, c'est plutôt une valeur fonctionnelle et même éthique, enfin culturelle. Et puisque la culture, c'est une idée qui nous échappe, même sur le plan technique. Vous voyez, une bibliothèque, par exemple, quand on a commencé là, la bibliothèque était conçue dans le programme comme un lieu dans lequel tu arrives, tu remplis ta fiche, tu demandes le livre, fini. Et après, on a discuté avec Jean-Pierre Séguin, qui était un génie. Il avait quand même des génies sur ce projet. Hein. On a eu des gens ensemble avec nous, génial. Et lui, il était le chef de la bibliothèque. Et on se posait des questions. Des jeunes, tous, plutôt. Et Séguin nous disait, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est très simple. On fait une bibliothèque dans laquelle on cherche son livre, ouvert. Enfin, on met les livres sur les étagères, on cherche un livre, mais on trouve d'autres livres. On les met sur la table, on travaille, et après, on les laisse.
Ça, c'était complètement nouveau avant...
C'était nouveau. C'était pas complètement nouveau, mais c'était sûrement nouveau au niveau d'une grande bibliothèque. C'était pas nouveau dans l'esprit et la philosophie d'une maison de la culture. C'était dans cette logique. Et ceci étant dit, faut pas oublier une chose, c'est que c'est toujours compliqué de faire des choses comme ça. Par exemple, quelqu'un a dit, oui, mais les gens volent les livres. Et moi, je me rappelle parfaitement, c'était une réunion assez importante. Et à un moment donné, je regarde et je dis, et alors? Alors, j'aurais pas dû dire ça, parce que comment voler les livres? Finalement, la vérité, c'est qu'on ne vole pas les livres. Il y a bien sûr un petit peu de gens malades qui volent des livres, et qui volent des livres, mais c'est très, très, très peu, très peu. Et finalement, c'est pas des livres rares, c'est pas des œuvres d'art, c'est des livres qui ont des copies. Et c'est beaucoup de livres, hein, c'est des millions de livres, mais c'est une grande bibliothèque. Mais finalement, il y a eu quand même quelques résistances ici-là. Mais heureusement, toutes ces choses-là, qu'il s'agisse du musée, de la bibliothèque, de la musique avec Pierre Boulez, Luciano Berri, tous ces gens, c'était tellement, il y avait une telle énergie. Puisque finalement, les choses, ce n'est pas seulement quand les planètes s'alignent. Il faut ça. Il y a une sorte de magie. Ou bien les planètes s'alignent. Et là, il y en avait pas mal qui s'étaient alignés l'un après l'autre.
Je voudrais que vous nous parliez de toute cette, ce qu'on appelle la tripaille, de manière un peu vulgaire, mais ce choix de faire apparaître tous ces tuyaux, les conduites d'air, d'eau, les gaines électriques, cette chenille sur la façade, vous avez fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant, c'est-à-dire montrer toute la structure du bâtiment et même la rejeter à l'avant et à l'arrière, enfin, si on peut parler d'un avant et d'un arrière d'ailleurs. Est-ce que c'était une manière de rendre lisible l'architecture, c'est-à-dire qu'à la fois il fallait que la culture soit accessible à tous et que l'architecture soit aussi lisible par tous. C'était ça l'idée du bâtiment aussi?
C'était d'abord une idée pas trop stupide du point de vue fonctionnel, puisque quand vous voulez une flexibilité absolue, vous faites des plateaux qui sont 170 mètres de longueur, 50 de largeur, et vous, surtout vous mettez pas des escaliers et des toilettes au milieu. Et vous mettez pas ça, vous mettez pas des choses fixes, vous faites une chose très simple, vous poussez tout à l'extérieur, d'un côté ou de l'autre. Du côté ouest, vers la place, on a envoyé tout ce qui bouge, les gens, hein, et de l'autre côté, les fluides, l'eau, l'électricité, l'air chaud, froid, et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui avait une très grande force, comme je disais tout à l'heure, là, fonctionnelle, mais aussi philosophique, parce que c'était justement l'idée de faire quelque chose capable de se modifier dans le temps. Et avec des portées d'une demi-tonne par mètre carré, vous faites ça, il n'y a pas d'obligation, vous n'avez rien qui vous empêche de modifier les espaces et les adapter à une vision culturelle, justement de la culture qui change tout le temps. Heureusement. Évidemment, du coup, on a profité de ça. Du coup, les gens qui se promènent sur la façade deviennent une sorte de spectacle pour les gens qui sont sur la place. Les gens qui sont sur la place sont le spectacle pour les gens qui montent sur le bâtiment. Et la montée sur l'escalateur, c'est un voyage lente. C'est la lenteur. C'est la découverte de la ville. On monte et il y a peu à peu, on découvre la ville.
Pendant des années, d'ailleurs, on pouvait monter sans prendre de ticket.
Bien sûr.
Et tout le monde faisait cette commande.
Mais c'est redevenu comme ça, heureusement. Heureusement, puisqu'il y a eu quand même, il y a désormais une histoire, presque une demi-siècle d'histoire, justement. Il y a eu plein de modifications. Mais bien sûr, c'était la gratuité de tout ça. L'idée que ce bâtiment était une petite ville à elle-même. Une petite ville à 20 000 personnes. 20 000 personnes, c'était la limite des gens qui auraient pu être reçus par le centre chaque jour. Et alors, vous voyez, alors là, tout ce qui avait à faire avec le public, les gens, les arrivées, le départ et tout ça, c'était plutôt le côté ouest. Et tout le reste, c'était le côté est. Et du coup, quand tu mets sur une façade, tu t'amuses aussi un petit peu. Les couleurs, c'était une histoire. C'était une histoire dans l'histoire, il y en a plein. C'était même une blague, parce que personne n'était d'accord sur les couleurs. Personne. Et un jour, on a une idée géniale avec Richard. On s'est dit, mais et si on évoquait le code couleur, c'est-à-dire l'eau est verte et l'air est bleu et l'électricité est jaune, tout ce qui bouge est rouge. On arrive dans une réunion, on dit ça et tout le monde regarde et alors s'il y a un code, il faut adopter la code. Eh bien, vous savez que c'est seulement 15 ans plus tard que tout le monde a trouvé qu'il n'y avait, les codes n'existaient pas. Il n'y avait pas de code. On l'avait inventé, nous.
C'est vous qui l'avez inventé.
Et c'était pas bête, non? Et finalement, on l'a fait. Non, mais c'est pas un jeu méchant. C'est pour rendre la chose encore plus claire. Quelqu'un a pensé que ce bâtiment, c'est un exemple de haute technologie, mais c'est pas ça du tout. C'est un bâtiment qui aurait pu être imaginé par Jules Verne, celui-là. C'est ça. Alors, le jeu des couleurs, c'est la joie de vivre, quoi. C'était un petit peu ça. T'étais jeune.
C'est un chantier qui a été, on peut le dire, extrêmement difficile, quand même.
Oh, oui, bien sûr. Tous les chantiers sont difficiles. Mais celui-là, c'était pas facile du tout. Non. Et on était protégés. Et on avait des gens très bien sur le projet. Robert Bordaz était un homme de grande expérience, un grand commis d'État, avec une tête, je me rappelle, disait toujours à moi, Richard, vous êtes gentil, mais insupportable. Mais finalement, on était très soudés, très, très soudés. Et avec des gens comme ça, on peut faire des miracles. Il y a eu un moment dans lequel on a dû poser la question, mais comment est-ce qu'on fait avec la structure? Puisqu'on nous dit qu'on ne peut pas faire cette structure en acier. Et nous, on voulait construire en acier. Mais, vous savez, ce n'était pas un entêtement stupide, celui-là. Puisqu'on voulait que ça rentre un petit peu dans la grande tradition française, de la fonte, des pièces en fonte et tout ça. Et finalement, bah, c'était Robert Baudin qui a eu le courage de poser des questions et finalement, on a pu passer la commande à des gens comme Krupp, par exemple.
Un groupe allemand.
Oui. Et c'est, il faut que je dise un mot à propos de cet entêtement, parce que, vous voyez, dans mon métier, c'est des choses qu'on connaît bien à mon âge, à ce moment, il y a une sorte d'entêtement, un sacré entêtement, je dirais même sublime, sans lequel vous n'arrivez pas au centre des choses, vous ne tombez pas au centre des choses, vous tombez toujours à côté des choses, il n'y a rien à faire. Mais si on a cette capacité, et après on a cet entêtement, alors là on arrive à faire des choses incroyables. Et c'est quelque chose qu'il faut enseigner aux jeunes quelquefois, puisqu'il ne faut pas laisser tomber.
Il faut imaginer, vous l'avez raconté souvent, que vous arrivez même à la réception qui est donnée après le résultat du concours. Vous arrivez en jean et vous vous retrouvez face à des dizaines de grands commis d'État, toute l'administration française avec laquelle vous allez devoir travailler, qui a essayé de vous déposséder très vite, hein, en disant « vous allez dessiner, nous on va faire ». Et c'est cet entêtement sublime qui fait la différence.
Ah oui, ça c'était amusant même. Mais on était jeunes, mais on était quand même... On était têtus. Et je crois qu'on est têtus, c'est une chose correcte. Et on a trouvé avec nous beaucoup de gens têtus, comme nous. Et c'est vrai. Et ça n'a jamais été très aimé, tout ça. J'ai plein d'histoires que je peux raconter. C'est le préfet de Paris. Et il y avait le préfet à cette époque, il n'y avait pas de maire de Paris. Et un jour, nous, on monte les prises d'air sur la place, qui sont comme des grandes prises d'air de bateaux. Et il nous appelle gentiment et il nous dit « Non, vous ne faites pas ça au milieu de Paris, c'est un désastre. Ça, c'est la Paris historique. Et vous les enlevez. » Ah ben, nous, on part obéissant. Et on les enlève. Mais on les met, bien sûr, quelque part, en attente. Après, 4 mois plus tard, on s'est dit, oui, mais il a peut-être oublié. Comme ça, on remet les prises d'air. Bah, bien sûr, une demi-journée après, il nous rappelle. Cette fois, il était furieux. Il a dit, non, vous n'avez pas compris. Bon vivant, ça, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. On enlève, encore une fois. Mais le pauvre, il décède quelques mois plus tard. Et c'était triste, évidemment. Mais nous, on se regarde, et maman, il a dit, moi vivant, alors on y va. Et maintenant, on les a montés. Non, mais c'est une histoire légèrement triste, évidemment. Mais il y en a plein d'histoires comme ça. Vous savez, moi, même après qu'on a fini, j'ai pas tellement facilement dit au chauffeur que j'étais l'architecte du centre. C'est quelque chose qui a pris du temps pour entrer dans les rituels de la ville et dans l'imaginaire de la ville. Les villes sont pas faites nécessairement partout des bâtiments qui sont aimés tout de suite. Il faut du temps. Et un bâtiment comme ça, il a pris du temps. Mais aujourd'hui, je crois qu'il fait partie de la ville. Et j'aime même mieux avec un certain âge. Il a une certaine patine, oui.
Vous trouvez qu'il est de mieux en mieux?
Oui, je préfère. Puisqu'il a une certaine patine, il a... Mais quand même, maintenant, c'est devenu une partie de Paris.
C'est vrai que quand on monte sur la colline de Belleville ou de Ménilmontant et qu'on regarde les monuments, il y a la Tour Eiffel, Notre-Dame... Et Beaubourg, c'est gigantesque et ça fait partie maintenant. Ça fait partie, même si c'était...
Ah, c'est inévitable, c'est incontournable. D'ailleurs, j'ai déjeuné un jour avec ma fille, Lia, il y a quelques mois, à la Bourse de commerce. C'est un magnifique bâtiment qui était... On était dans le restaurant, on regardait dehors, ah, c'était génial, parce qu'il y avait Beaubourg en face, qui ressortait justement pour la moitié au-dessus des toits. Mais tout ça, vous voyez, tout ça, c'était pas aussi clair que ça. On a travaillé comme des fous pendant 6 ans. Hein, 71, 77, c'était l'ouverture. Mais les choses se sont dévoilées un petit peu au fur et à mesure qu'on a construit. Et après, le bâtiment a pris sa force, et peu à peu.
Vous parlez aussi souvent de cette histoire, alors c'est une toute petite pièce mais qui est très importante sur le bâtiment, et vous racontez souvent cette histoire de comment vous l'avez fabriquée. C'est une pièce qui permet de tirer un petit peu le bâtiment de chaque côté, qui s'appelle la gerberette. Alors on peut regarder, hein, c'est une petite pièce un peu en forme d'amande. Cette pièce, elle a beaucoup cassé au début. Ça, c'est aussi, vous avez appris à travailler avec le commanditaire, avec les critiques, avec l'administration, mais vous avez aussi commencé à travailler à cette époque avec les industriels, main dans la main, et dessiner en même temps qu'eux.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, mais là, d'abord, on n'était pas tout seul. On avait des ingénieurs géniaux avec nous. Peter Lai, c'était un ami, un Irlandais. Vous savez, les chantiers, les grands chantiers, sont des miracles. Ils sont des lieux magnifiques. C'est des lieux dans lesquels les différences disparaissent. Et c'est l'orgueil de faire quelque chose qui devient le plus fort. J'ai toujours vu ça, mais sur Beaubourg, je rappelle toujours Beaubourg, mais c'est le centre Georges Pompidou, mais c'était très fort, ça. Et moi, d'ailleurs, et Richard aussi, mais moi surtout, je suis fils d'un constructeur, un petit constructeur, un petit bâtisseur. Et franchement, je dois l'avouer que je me sens plus bâtisseur qu'architecte. Enfin, je ne vois pas trop de différence, d'ailleurs. Je n'arrive pas à voir la différence entre être architecte, ingénieur, bâtisseur. Et j'ai toujours eu un côté ingénieur aussi. Moi, quand j'ai fini mes études, pendant 5 ans, j'ai fait seulement des essais sur des structures, des choses comme ça, construire des bâtiments pièce par pièce, hein, une pièce à la fois, les mettre ensemble et construire un organisme à travers des pièces, l'une après l'autre. Ça a toujours été une passion. Et c'était une passion qui est partagée par tout le monde, vous voyez? Vous parlez peut-être parmi nos écouteurs, je crois qu'il y en a très peu qui ne sont pas touchés par l'idée de construire, bâtir. Bâtir, c'est quelque chose qui nous appartient depuis toujours. C'est peut-être la première ou une des premières activités de l'homme, bâtir.
Là, on s'apprête à fermer Beaubourg pour 5 ans. Il va beaucoup nous manquer entre 2025 et 2030. Est-ce que ça veut dire qu'il vieillit bien ou est-ce que ça veut dire qu'il vieillit mal, le centre?
Ça m'étonne quand même qu'il faut tellement de temps, c'est dommage. Je suis très bien, ça, je suis le Quasimodo, on m'appelle tout le temps, j'y vais, on suit le projet. Et un bâtiment de cette taille, qui est fatigué par des centaines de millions de gens qui l'ont visité, il a besoin d'un petit moment de repos. Vous savez, la ville a ses temps, les temps de la ville sont comme ça. En plus, les bâtiments ont besoin d'affection. C'est comme les enfants. Hein? Là, je sais que c'est légèrement, c'est un petit peu doux, mais j'aime mes bâtiments, comme les enfants. Et j'aime bien être sûr qu'ils soient heureux.
Merci Renzo Piano. On se retrouve demain et on se transportera à Gênes, votre ville natale. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral. Prise de son Yann Fressy, réalisation Nathalie Salle, une série de Camille Jusa, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.